Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par l'épidémie d'Ebola en RDC et cette bonne nouvelle pour les personnes affectées par la fièvre hémorragique. Les détails avec Anne Albertson.
En République démocratique du Congo, l'espoir d'un traitement du virus Ebola se dessine. Deux médicaments, RGN-EB3 et MAB-114, ayant augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique dans le pays. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités sanitaires américaines qui ont cofinancé l'étude. La phase actuelle de cette étude, initiée en novembre en RDC, sera arrêtée afin que tous les futurs patients reçoivent ces traitements ayant démontré des résultats positifs, ont ajouté les instituts nationaux de santé américains.
Au Gabon, la justice va examiner en appel le 26 août la demande des opposants qui exigent une expertise médicale du président Ali Bongo Ondimba. Objectif, apprécier l'aptitude du chef de l'État à exercer ses fonctions 10 mois après un AVC, un accident vasculaire cérébral. Le point avec Irénée Herman Ongo.
C'est le début de quelque chose, se félicite Ange Kevin Nzigu, un des membres du comité de 10 personnalités qui réclament l'expertise. Selon cet avocat, la justice a pour une fois résisté à l'appel du pouvoir, rejetant sa demande en faveur d'une dessaisie des juridictions ordinaires. Cela viole toutes les règles, s'insurge de son côté Tony Serge Ndong, avocat d'Ali Bongo. Pour lui, son client, en tant que chef de l'État, ne peut pas être justiciable. La prudence est de mise, puisqu'il n'est pas exclu que des exceptions soient soulevées pendant la procédure le 26 août, rappelle M. Nzigu. Mieux, la Cour d'appel ne s'est pas encore prononcée au fond sur sa capacité à juger une affaire impliquant le chef de l'État. La question de l'aptitude à présider d'Ali Bongo est brandie en permanence par ses opposants qui estiment qu'il ne s'est jamais remis de l'accident vasculaire cérébral qu'il avait frappé fin octobre 2018 pendant une visite en Arabie Saoudite.
Afrique de l'Ouest maintenant, corruption en Guinée. L'homme d'affaires et diamantaire franco-israélien Benny Steinmetz va être jugé à Genève en Suisse pour corruption et faux dans une affaire de concession de mine en Guinée-Conakry entre 2005 et 2010. Les précisions de Bagassi Koura.
Le procureur Claudio Moscoto, en charge de la procédure depuis son ouverture en 2013, a retenu contre l'homme d'affaires deux de ses collaborateurs, un Français et une Belge, les infractions de corruption d'agents publics étrangers, de faux dans les titres. La date du procès n'est pas précisée. Les prévenus sont accusés d'avoir versé ou fait verser des pots de vin à l'une des épouses de l'ancien président guinéen, Lansana Conté. Selon le parquet, les pots de vin, environ 10 millions de dollars, dont une partie a transité par des comptes suisses, auraient permis d'évacuer le groupe minier rival britannique Rio Tinto. L'homme d'affaires franco-israélien, la tête du groupe Benny Steinmetz Group Resources, avait obtenu la licence d'exploitation de la mine de fer de Simandou juste avant le décès du président Conté en 2008. Depuis, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En février 2019, le milliardaire et la présidence guinéenne ont annoncé un accord à l'amiable, le retrait des poursuites contre Steinmetz pour qu'il renonce à ses droits sur le jugement de fer de Simandou. Cet arrangement n'a pas mis fin aux poursuites engagées par Genève.
Nigeria, Cheikh Ibrahim El-Zakzaki, leader de la minorité chiite nigériane et maintenu en détention depuis 2015, a quitté hier son pays à destination de l'Inde. Une route courte fédérale à Kaduna, grande agglomération du Nord-Ouest, lui a accordé ainsi qu'à son épouse la permission de se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Plus de détails avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le chef du mouvement islamique au Nigeria, Ibrahim El-Zakzaki, et sa femme se sont envolés de l'aéroport international d'Abuja dans la nuit de lundi à mardi. Selon un de ses avocats, Haruna Magashi, le couple avait été transféré à Abuja en préparation du voyage. Le couple a quitté le Nigeria une semaine après que le tribunal leur a accordé la permission de se rendre en Inde pour recevoir des soins médicaux dans un hôpital de New Delhi. El Zakzaki et son épouse sont détenus depuis 2015 suite à l'affrontement entre ses partisans et l'armée nigériane. Plus de 300 membres de son organisation avaient été tués par des soldats durant cet incident survenu en décembre 2015. Il est poursuivi par les autorités pour homicide volontaire, association de malfaiteurs et rassemblement illégal. Il sera accompagné durant tout son séjour médical par une équipe de sécurité du département de la sûreté de l'État. La Cour a donné une suite favorable à sa requête, à condition qu'il revienne au pays pour poursuivre son procès après sa sortie de l'hôpital. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Célébration de la 20e journée internationale de la jeunesse, lundi 12 août. Avec 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans, le monde n'a jamais compté autant de jeunes qu'aujourd'hui, estiment les experts des Nations Unies. Les moins de 30 ans représentent 50% de la population de la Terre et 70% des Africains ont moins de 25 ans. Le thème de la célébration de la jeunesse cette année a mis l'accent sur les efforts visant à rendre l'éducation plus inclusive et plus accessible pour tous les jeunes. Pour plus de détails, John Lydon a joint à Dakar Mabeng Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population.
L'Afrique est un continent jeune, c'est donc cette jeunesse, je pense, qui sera un peu au rendez-vous en 2030, mais également en 2103, lorsque nous allons célébrer l'Afrique que nous voulons. Donc une Afrique en bonne santé, une Afrique paisible, stable, une Afrique prospère. Donc cette Afrique s'est construite aujourd'hui et nous devons la construire en investissant dans la jeunesse africaine.
Les moins de 30 ans représentent 50% de la population mondiale et 70% de la population en Afrique a moins de 25 ans. Cela pourrait aussi poser à l'avenir des problèmes de démographie.
Les problèmes se posent déjà, surtout dans beaucoup de parties en Afrique au sud du Sahara. Je pense notamment à la zone du Sahel ou à l'espace un peu du bassin du lac Tchad, des régions où nous avons une population qui est majoritairement jeune, mais une population qui a des difficultés pour aller à l'école, donc pour trouver des emplois productifs. Et je pense une population qui a également des difficultés pour la réalisation de leurs ambitions. Donc c'est d'ailleurs ces difficultés qui expliquent aujourd'hui que ces jeunes ont tendance à traverser un peu l'océan, la Méditerranée. Ils ont également tendance à traverser un peu le désert. Et je pense que vous savez mieux que tout le monde que lorsqu'ils n'arrivent pas et qu'ils reviennent, ils se radicalisent. Donc il faut absolument que nous puissions en tout cas investir dans cette jeunesse en créant des opportunités donc pour les jeunes en termes d'accès à l'éducation, d'accès aux services de santé, d'accès à des emplois productifs. Mais ce n'est pas suffisant parce que tant que la femme va continuer à avoir plus de 5 enfants en Afrique au sud du Sahara, il nous sera difficile de régler un peu le stock que nous avons, mais également de faire face aux besoins des nouvelles cohortes donc qui viennent s'ajouter sur le stock déjà existant. Donc, il s'agit donc d'une part de répondre aux besoins actuels, pressants de la jeunesse en termes d'emploi, d'éducation, de santé, mais également d'investir dans ce que j'appelle un effort pour contenir le croît démographique très fort qui fait que la demande sociale augmente de plus en plus et que les pays, les familles, les individus et les communautés et même leurs partenaires au développement ne sont pas capables de répondre à tous ces besoins.
Mabeng Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, joint à Dakar au Sénégal. Et l'actualité américaine pour terminer, les migrants bénéficiant de prestations sociales comme des soins subventionnés ou une allocation logement risquent de se voir désormais refuser la résidence permanente ou la nationalité américaine. Les détails avec Jean-Roger Bion.
C'est ce qui ressort de nouvelles règles annoncées lundi par le gouvernement du président Donald Trump, fidèle à son credo d'immigration au mérite. Elles doivent entrer en vigueur le 15 octobre. Le texte va affecter les migrants démunis qui bénéficient à leur arrivée sur le territoire américain pendant une période limitée d'allocation de logements ou de bons alimentaires. Il est aussi destiné à décourager les candidats à l'immigration peu qualifiés qui espèrent obtenir l'asile aux États-Unis. Cette décision pourrait affecter 22 millions d'étrangers résidant légalement dans le pays ainsi que quelques 10 millions d'immigrants installés illégalement aux États-Unis, souvent depuis des années. le renforcement de la réglementation sur les charges pour la société, envisagé depuis 2018, a reçu un soutien fervent des conservateurs aux États-Unis, tandis que les défenseurs de l'immigration l'ont vivement critiqué. Les nouvelles règles, a-t-on précisé, ne s'appliquent pas au programme d'immigration à caractère humanitaire pour les réfugiés et les asiles. Elles contiennent aussi des exemptions pour les victimes de trafic d'êtres humains et de violences domestiques. De telles exemptions sont imposées par le Congrès.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.